billets d'Europe, la chronique européenne animée par Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Alors Daniel, dans une chronique précédente, vous nous avez présenté le Conseil de l'Europe, son histoire, ses missions, son organisation. Mais pour qui la plus ancienne institution européenne œuvre-t-elle ?
Alors, le Conseil de l'Europe rassemble une population de 833 millions d'habitants et regroupe 47 États européens. C'est au début des années 90 que le Conseil de l'Europe prend une dimension pan-européenne avec le grand élargissement que constitue l'accueil des pays ex-communistes d'Europe centrale et orientale pour commencer, puis des républiques de l'ex-URSS et enfin de la Russie elle-même en 1996. À ce jour, un seul pays, la Biélorussie, bien qu'ayant bénéficié du statut d'invité spécial entre 92 et 97, reste à la porte pour non-respect des droits de l'homme et des principes démocratiques. Par ailleurs, 5 États sont observateurs au Conseil de l'Europe, le Saint-Siège, les États-Unis, le Canada, le Japon et le Mexique, et Israël étant observateur à l'Assemblée parlementaire.
Alors, quel rôle le Conseil de l'Europe joue-t-il dans la vie des Européens ?
Le Conseil de l'Europe agit dans de nombreux domaines et pour cela élabore des traités sous des appellations diverses, accords, arrangements, chartes, conventions, qui définissent des normes destinées à faciliter la coopération entre les pays européens. Ces textes, adoptés par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, n'ont pas de caractère obligatoire et leur ratification par les pays membres se fait sur une base volontaire. Mais une fois signés et ratifiés, ces traités deviennent juridiquement contraignants. Alors, quelques exemples, dans un ensemble très fourni, puisqu'il y a près de 200 textes. La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, plus connue sous le nom de Convention européenne des droits de l'homme, CEDH, de 1950, garantit les droits fondamentaux, civils et politiques, interdit la torture, le travail forcé, la peine de mort et les discriminations. Entrée en vigueur en 1953, elle a été ratifiée par tous les États membres du Conseil de l'Europe. Pour en garantir le respect, la Cour européenne des droits de l'homme est créée le 18 septembre 1959. C'est auprès de cette Cour que les Européens peuvent aujourd'hui introduire des recours s'ils estiment qu'un État membre a violé leurs droits. Deuxième exemple, la Charte sociale européenne, introduite en 1961, révisée en 1996, garantit les droits économiques et sociaux des citoyens européens. La Charte européenne des langues régionales ou minoritaire, adoptée par la Convention européenne de 1992, a pour but de protéger et de favoriser les langues historiques, régionales et les langues des minorités en Europe. Tous les ans, depuis 2001, une journée des langues est organisée le 26 septembre, donc dans quelques jours. La Convention culturelle européenne, adoptée en 1954, encourage et encadre la coopération à l'échelle de l'Europe pour l'éducation, la culture, la jeunesse, le sport. Il y a d'autres conventions, par exemple en 2005, la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie, à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, ou en 2011, la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et les abus sexuels, dite Convention d'Istanbul. Des mécanismes de suivi et d'évaluation, souvent créés eux-mêmes par une convention, veillent à l'application par les pays signataires, alors comme le GRECO, le groupe d'État contre la corruption, ou le Comité européen des droits sociaux, ou la Commission européenne pour l'efficacité de la justice.
Alors Daniel, quel rapport le Conseil de l'Europe et l'Union européenne entretiennent-ils ?
Alors, ce sont des organisations cousines, que l'on pourrait dire cousines. En 1985, l'Union a fait sien des symboles créés par le Conseil de l'Europe. Le drapeau adopté donc en 1955 par le CE et le drapeau de l'Union depuis 1985. L'hymne, même chose. La journée de l'Europe, c'est un petit peu plus complexe pour la journée de l'Europe, donc du 9 mai. Eh bien, c'est une reprise de la journée de l'Europe, du Conseil de l'Europe, mais qui, elle, tombait le 5 mai, puisqu'elle correspondait à la date anniversaire de la création du Conseil de l'Europe. Par ailleurs, les valeurs fondamentales sont les mêmes. Droits de l'homme, démocratie, prééminence du droit. L'Union européenne s'appuie souvent sur les normes du Conseil de l'Europe lorsqu'elle élabore des instruments juridiques et des accords applicables à ses 28 États membres. Par ailleurs, l'Union européenne invoque régulièrement les normes et les activités de suivi du Conseil de l'Europe dans ses rapports avec les pays voisins, dont beaucoup sont membres du Conseil de l'Europe. Ce sont des organisations aussi partenaires, dont les relations sont définies par plusieurs textes. Avec le traité de Lisbonne et l'extension de l'action de l'Union à de nouveaux domaines, comme la lutte contre la traite des êtres humains, les violences sexistes, l'exploitation sexuelle des enfants, pour lesquels le Conseil de l'Europe possède une expertise précieuse, la coopération entre ces deux institutions s'est beaucoup développée. Le traité de Lisbonne prévoit l'adhésion de l'Union en tant que telle à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui lui permettrait d'être entendu dans des affaires examinées par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, l'affaire juridiquement n'est pas simple, je ne saurais vous l'expliquer, et jusqu'à ce jour, la Cour de justice de l'Union européenne s'y refuse.
Mais le Conseil de l'Europe et l'Union européenne se marchent-ils sur les pieds, Daniel ?
Eh bien, on pourrait le penser à partir de ce que je viens de vous dire. Mais un exemple va suffire pour vous démontrer que chaque institution a une approche très spécifique des dossiers. À la suite de l'annexion de la Crimée par la Russie, en 2014, l'Union européenne a décidé des sanctions diplomatiques, financières et économiques quand le Conseil de l'Europe a privé la délégation russe de ses droits de vote au sein de l'Assemblée parlementaire. À l'Union européenne, la Russie répond par un activisme politique et de propagande. Au Conseil de l'Europe, eh bien, elle rappelle ses diplomates, suspend sa contribution financière et menace de partir définitivement. En juin 2019, les sanctions de l'UE ont été reconduites pour 6 mois. Au Conseil de l'Europe, après 9 heures de débat houleux, l'Assemblée a réintégré la Russie au motif qu'on ne peut pas priver les citoyens russes de la protection de la Cour européenne des droits de l'homme. Et le 27 août 2019, pratiquement hier, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Russie comme étant responsable de la mort en détention en 2009 de l'avocat russe anticorruption Magnitsky.